Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances » est un ouvrage collectif dirigé par Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia et Alain Schnapp, publié chez La Découverte avec l'appui de l'INRAP. Il appartient au champ de la synthèse historique et archéologique, mais se distingue par son ambition encyclopédique et par son orientation résolument fondée sur les découvertes matérielles. Le livre cherche à montrer comment les progrès d'archéologie, de l'archéologie préventive aux techniques de télédétection et d'analyse scientifique, ont profondément renouvelé la connaissance des sociétés humaines. À travers des contributions de nombreux spécialistes, il couvre un vaste arc chronologique et géographique, depuis l'hominisation jusqu'à l'époque contemporaine. Son objectif n'est pas de raconter l'histoire événementielle au sens classique, mais de proposer une vision d'ensemble des civilisations, de leurs transformations, de leurs contacts et de leurs ruptures. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une refondation du récit historique par les sources archéologiques. Le cœur du livre consiste à montrer que l'archéologie n'est plus une discipline auxiliaire chargée d'illustrer l'histoire écrite, mais une source majeure qui en modifie les cadres d'interprétation. En réunissant des spécialistes de plusieurs régions du monde, l'ouvrage met en évidence des savoirs construits à partir d'objets, de sites, de paysages, de restes biologiques et d'outils de datation. Cette approche permet de corriger des récits trop longtemps dominés par les seules traditions textuelles, souvent produites par des groupes lettrés et socialement dominants. Le livre insiste donc sur un déplacement méthodologique important. Il ne s'agit plus seulement d'additionner des découvertes, mais de reconstituer des trajectoires humaines à partir de traces matérielles qui élargissent le champ du connaissable. Cette perspective change la compréhension des sociétés sans écriture, mais aussi celle des mondes antiques, médiévaux et modernes. L'ouvrage montre ainsi que la connaissance historique gagne en précision lorsque les vestiges archéologiques sont confrontés aux sources écrites au lieu d'être subordonnés à elles. Deuxièmement, de l'hominisation aux premières sociétés agricoles, comprendre les grandes ruptures. L'un des apports majeurs du livre est de replacer l'histoire des civilisations dans une très longue durée, en partant des origines de l'hominisation et des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Cette mise en perspective permet de comprendre que les premiers groupes humains ne constituent pas un simple prélude marginal à l'histoire, mais une phase décisive pour l'organisation sociale, les mobilités, les techniques et les formes de subsistance. L'ouvrage accorde ensuite une place centrale au néolithique, moment où l'agriculture, l'élevage et la sédentarisation transforment profondément les rapports à l'espace, à la production et à la hiérarchie sociale. Ce passage n'est pas présenté comme une progression linéaire et harmonieuse, mais comme une mutation complexe marquée par des inégalités croissantes, des tensions, des innovations techniques et des recompositions culturelles. En insistant sur ces basculements, le livre fait comprendre que la naissance des civilisations ne résulte pas d'un seul centre d'invention ni d'un modèle unique. Elle procède au contraire de foyers multiples, de circulation et d'adaptation locale que l'archéologie permet d'identifier avec une grande finesse. Troisièmement, État, empire et hiérarchie, la formation des pouvoirs centralisés. Le livre analyse ensuite l'apparition des États centralisés comme une transformation décisive de l'histoire humaine. À partir des données archéologiques, il montre comment des centres urbains, des institutions politiques, des systèmes de prélèvement et des hiérarchies sociales se mettent en place dans différentes régions du monde, sans réduire cette évolution à un modèle unique importé d'un seul foyer originel. Cette comparaison à grande échelle est essentielle, car elle permet de penser ensemble la Mésopotamie, l'Égypte, l'Indus, la Chine, l'ère méditerranéenne ou encore d'autres espaces de formation politique. L'intérêt du livre est de ne pas isoler les grandes capitales ou les élites, mais de replacer la centralisation dans des économies, des réseaux d'échange, des techniques de production et des formes de contrôle territorial. Il montre aussi que la puissance des empires ne se comprend qu'en relation avec les infrastructures, les armées, les circulations de biens et les dépendances sociales qu'ils organisent. L'archéologie devient alors un outil pour étudier à la fois la grandeur des constructions politiques et la fragilité de leurs équilibres. Quatrièmement, dislocation, circulation et mondialisation, relire les contacts entre civilisations. Une autre dimension importante de l'ouvrage est son attention aux dynamiques de circulation, de contact et de transformation du Moyen-Âge à la mondialisation moderne et contemporaine. Le livre ne présente pas les civilisations comme des blocs fermés, mais comme des ensembles traversés par les échanges commerciaux, les migrations, les conquêtes, les transferts religieux et les circulations techniques. Cette approche permet de comprendre les empires et les sociétés médiévales comme des espaces connectés, soumis à des recompositions permanentes. Les chapitres consacrés à la mondialisation soulignent que les relations entre continents ne relèvent pas seulement de l'époque contemporaine, mais s'inscrivent dans une histoire longue des mobilités humaines. Les migrations successives occupent d'ailleurs une place structurante dans l'ouvrage, car elles expliquent autant la diffusion des populations que celle des langues, des pratiques et des savoir-faire. L'intérêt analytique est double d'une part, l'ouvrage corrige une vision trop statique des civilisations. D'autre part, il met en évidence les mécanismes de dislocation des grands ensembles politiques lorsque les équilibres économiques, militaires ou environnementaux se modifient. En dernier lieu, une synthèse accessible grâce à l'iconographie, à la cartographie et aux nouveaux outils de l'archéologie, le livre se distingue aussi par sa forme éditoriale, essentielle à sa portée scientifique et pédagogique. La présence d'une riche iconographie, de cartes originales et de textes de synthèse rédigés par les directeurs permet de rendre lisible un ensemble très vaste de connaissances. Cette construction collective répond à une difficulté classique des ouvrages savants, comment conserver la rigueur des spécialistes tout en offrant aux lecteurs non experts une vision d'ensemble cohérente. L'ouvrage y parvient en fragmentant le savoir en chapitres courts, mais reliés par une architecture commune. La dernière partie met en avant les nouveaux outils de l'archéologie, tels que les progrès de la datation, de l'imagerie aérienne, de la géophysique, du lidar ou de l'ADN ancien, qui transforment non seulement les méthodes, mais aussi les questions posées au passé. Cette insistance sur les technologies n'est pas accessoire, elle montre que l'histoire des civilisations dépend désormais d'une enquête matérielle de plus en plus fine, capable de faire apparaître des paysages enfouis, des habitats invisibles et des continuités ignorées. Le livre devient ainsi une démonstration de méthode autant qu'un panorama historique. En conclusion, cet ouvrage s'adresse d'abord aux lecteurs qui veulent comprendre l'histoire humaine à une échelle large, sans se limiter aux récits nationaux, aux grandes batailles ou aux chronologies scolaires classiques. Il convient particulièrement à ceux qui s'intéressent à l'archéologie, à l'anthropologie historique, aux origines des sociétés agricoles, à la formation des États et aux transformations de la mondialisation. Son intérêt pratique est de fournir une vue d'ensemble solide, nourrie par des travaux spécialisés, tout en aidant le lecteur à situer les grandes ruptures de l'histoire humaine dans une perspective longue. Son intérêt intellectuel est plus profond encore, il apprend à distinguer ce que les sources écrites ont longtemps fait croire de ce que les vestiges matériels se permettent désormais d'établir. Ce qui le différencie de nombreux livres du même genre, c'est sa dimension réellement collective, sa couverture mondiale et sa volonté de faire dialoguer archéologie, histoire et sciences humaines sans privilégier une civilisation au détriment des autres. Il ne cherche pas à simplifier artificiellement le passé, mais à en donner une image plus juste, plus vaste et mieux étayée. Si vous souhaitez soutenir Jean-Paul Demoule, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!